Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'agriculture africaine au tournant, une autre image. Où en est l'agriculture africaine aujourd'hui? Quelle peut être sa place? Ou plutôt, quelle doit être sa place dans l'Afrique de demain, dans la nouvelle Afrique qui est en train de se construire? Voilà des questions qu'on ne pose pas toujours lorsque on évoque les perspectives africaines, on parle de développement d'une manière très générale, on évoque les possibilités d'industrialisation, mais le plus souvent ça nous ramène quand même à ces industries de base qui traitent les matières premières, notamment des matières premières très précieuses, l'or, le diamant, le coltan, etc. Et au point que on a l'impression que la part de l'agriculture est acquise et qu'il n'y a pas de questions à se poser à son sujet. Or, lorsque l'Afrique est devenue indépendante, beaucoup de gens avaient tiré la sonnette d'alarme en disant aux Africains, faites attention, vous voulez le développement, mais quel développement allez-vous choisir? Ne laissez pas tomber le secteur agricole. D'abord parce qu'il y a des traditions africaines d'agriculture qui sont très importantes, très novatrices, et en même temps parce que c'est là que se trouve la majorité de la population active. L'un de ces activistes était un agronome très connu qui avait l'habitude de déranger, de bousculer les gens, c'est René Dumont. René Dumont avait beaucoup travaillé dans ce qu'on appelait le Tonkin, c'est-à-dire une partie du Vietnam d'aujourd'hui. Il avait vu les paysans vietnamiens et les paysans du sud-est asiatique et il disait aux Africains, votre avenir est peut-être dans le secteur agricole. Alors voilà une question qui a été posée récemment à la fin du mois d'avril au cours d'un colloque international qui s'est réuni à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Colloque important parce que en général, quand les ONG se réunissent, c'est souvent dans des salles obscures, en fumée, avec beaucoup de bruit autour. Là, ça s'est tenu à la Chambre des représentants belges, dans un lieu prestigieux au Parlement fédéral belge, donc il y a un côté officiel, mais ce sont des ONG qui ont parlé. Parmi ces ONG, pas mal d'ONG du Nord, mais surtout des ONG du Sud, dans lesquelles finalement toute l'Afrique était là, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les pays de l'océan Indien, et nous recevons l'une des figures qui a été la plus remarquée sans doute lors de ce colloque, c'est Inoussa Maïga. Bonjour Inoussa.
Bonjour.
Vous êtes burkinabé, vous êtes venu du Burkina à l'occasion de ce colloque pour poser cette question de l'agriculture africaine. On a beaucoup parlé de communication d'ONG par rapport aux crises que l'Afrique a connues. Ces ONG, on le sait, se sont développées dans deux phases essentiellement. D'une part, à partir des années 60, les indépendances, la guerre du Biafra et la question de l'humanitarisme. Et puis, à partir des années 90, un nouveau choc, des drames, notamment le génocide au Rwanda, les guerres du Congo, mais aussi les guerres dans le Sahel. Et du coup, tout ce mouvement de migration, de violence qui fait que on a trop été peut-être dans l'humanitaire, en oubliant que les gens vivent. Et pour que les gens vivent, il faut qu'ils mangent. Alors dites-nous un peu, vous, dans ces ONG, comment vous y êtes venu et comment vous avez commencé à découvrir des pistes nouvelles de ce que l'Afrique peut faire et peut-être de ce qu'elle doit faire.
Alors, j'allais dire, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, professeur, je suis du Burkina Faso. Et je me définis comme journaliste et entrepreneur, mais voilà, qui travaille principalement sur les questions liées à l'agriculture et au développement rural. Donc, avec une dizaine d'années d'expérience, donc tout début de ma carrière. Donc, voilà. Alors, j'ai choisi depuis le début de travailler sur les questions agricoles à travers donc une série d'observations et de constats sur le terrain, qui est que c'était déjà le secteur le plus important en termes donc de pourcentage de population active concernée. Mais en même temps aussi, parce que quand on observe, on se rend compte que c'est l'un des secteurs, malgré son importance, quand on observe la structure économique des différents pays d'Afrique, on voit que c'est profondément lié à ce secteur, mais qui est, dans la façon donc, selon les modes de gouvernance, n'est pas aussi bien valorisé à sa juste valeur. Donc, moi, j'ai été invité à ce colloque parce que, pas parce que je suis dans une ONG ou que je suis d'une ONG, mais parce que, voilà, en tant que journaliste et entrepreneur, je me suis intéressé sur cette question, qui est aussi une question d'image et de promotion, de valorisation. Et il m'a été demandé donc de présenter un peu le travail que nous faisons depuis maintenant 2 ans, qui est donc un travail de revalorisation des métiers d'agriculture aux yeux des jeunes. Parce que pour deux choses, la première chose étant que l'Afrique est aujourd'hui très jeune, donc plus de 110% de la population africaine est âgée de moins de 30 ans. Et au même moment, donc confrontée à des niveaux de chômage sans précédent, comme l'estiment les statistiques, on a chaque année environ 10 millions de jeunes africains qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc un marché de l'emploi qui est totalement inexistant puisqu'il n'arrive pas à absorber ne serait-ce que le dixième donc, de ce pourcentage.
C'est vrai, cette question des jeunes, il y a quand même un paradoxe. Bon, il y a tout un effort qui a été fait dans le domaine de l'éducation, il faut se l'avouer, à la fois dans le sens de la démocratisation, donc une généralisation de l'accès à l'enseignement primaire, secondaire et même supérieur, et puis dans un certain nombre de pays, notamment au Burkina Faso, il y a eu des intellectuels très très brillants, bon, dans la génération des fondateurs, quelqu'un comme Nasi Boni, quelqu'un comme Joseph Kizerbo sont des intellectuels burkinabés, mais aussi africains, panafricains, on peut même dire des intellectuels mondiaux. Hein. Donc au Burkina, le savoir, notamment le savoir acquis dans les écoles, conserve un prestige inégalé. Ça crée quand même des problèmes, paradoxalement.
Mais oui, c'est là tout le paradoxe, parce qu'il y a eu quand même des efforts considérables donc, pour la démocratisation de l'école et du savoir, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui sont instruits, qui sont formés, et qui arrivent à un stade où ils ont besoin donc de mettre à profit donc ces compétences acquises au service du développement de leur pays. Malheureusement, la structure économique n'arrive pas donc à créer suffisamment d'opportunités pour tous ces jeunes. À titre d'exemple, pour montrer à quel point donc la situation est critique, en 2017, pour 12 000 emplois, pour 12 000 postes donc à la fonction, au concours de la fonction publique, on enregistrait plus d'un million de candidats.
Paradoxe, ça veut dire qu'il y a quand même un million de candidats formés à un niveau élevé, puisque ce sont des concours. Un million pour 12 000 emplois.
12 000 emplois.
On connaît peu de pays où il y ait un clivage aussi énorme. Alors, si on en prend 12 000, il reste presque tout le monde qui sont donc au chômage. Alors, que deviennent-ils ? Pendant un moment, les sociologues avaient travaillé sur les petits métiers de la ville, donc cireur de chaussures, vendeur ambulant, etc. Mais quelqu'un qui a fait des études pour prétendre aux emplois publics, quelle est l'issue ? Pendant longtemps, la Haute Volta, comme on disait, le Burkina Faso d'aujourd'hui, a vécu de l'émigration et a fourni une émigration de main-d'œuvre relativement formée ou peu formée, mais aussi une émigration de cadres dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et même au-delà, une émigration de cadres, médecins, professeurs, etc., en France et dans le reste de l'Europe. Alors aujourd'hui, ça n'est plus possible. Alors que font-ils tous ces jeunes ?
Ben justement, c'est là tout le problème. On a donc beaucoup de jeunes qui ont beaucoup à offrir donc au développement de leur pays, mais qui n'ont pas justement accès à ces opportunités. Et nous, à notre niveau, nous pensons que quand on observe un peu la structure économique de notre pays, qui est aussi un peu à l'image des autres pays d'Afrique, il y a justement le secteur agricole qui est ignoré, qui est délaissé, alors que c'est là où on a le plus de possibilités de créer rapidement un nombre important donc d'emplois pour les jeunes formés, parce qu'on ne peut pas encore aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, voir l'agriculture comme juste une question de paysannerie. On a besoin donc, pour accélérer la modernisation de ce secteur, de contribuer, de faire donc attirer ces jeunes-là qui ont donc ces nouvelles connaissances, qui ont surtout une ouverture formidable au monde. Parce qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques, ils leur permettent donc de voir un peu tout ce qui se fait ailleurs. Et donc, ils ont la possibilité donc, d'introduire des innovations pour accélérer la transformation du secteur agricole. Nous pensons que c'est justement sur ce levier qu'il faut actionner pour créer plus d'opportunités et de possibilités des jeunes. Ce qui serait à la fois bénéfique en termes donc, pour résorber le chômage, mais aussi pour prendre le relais d'une génération d'agriculteurs vieillissante. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on estime l'âge moyen des agriculteurs à plus de 50 ans. Donc, plus de 50 ans pour une population majoritairement jeune. Donc, ce qui veut dire théoriquement, tout simplement qu'on a encore des jeunes qui n'ont pas beaucoup à faire, qui sont nourris par une population âgée qui produit encore notre nourriture. Et cela doit changer.
Nous sommes avec Inoussa Maïga qui se présente comme journaliste et entrepreneur. Ce mot d'entrepreneur est évidemment très important parce que longtemps c'est la figure du fonctionnaire qu'il avait emporté en Afrique en termes de visibilité, de prestige et sans doute aussi de revenus et de possibilités de carrière parce que fonctionnaire souvent ce sont des postes qui débouchaient sur la politique, la députation, un cabinet ministériel, etc. Alors entrepreneur. Beaucoup pensent, quand on dit entrepreneur, ils pensent à Tata, ils pensent à Mitsubishi, ils pensent à d'autres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les industries mécaniques, l'industrie tout court, qui consomme énormément d'énergie, ce qui est de nature à poser des problèmes aussi à un continent comme le nôtre. Alors vous, déjà le mot d'entrepreneur, qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, oui, c'est vrai que... Ouais. Au-delà, on peut dire aussi qu'il y a tout un phénomène de mode, mais pour moi, au-delà de ça, entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui, pour notre contexte burkinabé ou africain, c'est déjà quelqu'un qui décide de se prendre en charge. N'attend pas donc de l'État, donc que l'État lui fournisse directement un emploi, mais décide de créer à travers donc ses compétences, ses connaissances, de créer lui-même les opportunités donc d'emploi et de création de revenus directs, mais aussi pour d'autres personnes qu'il peut donc employer de façon permanente ou occasionnelle pour la réalisation donc des activités dans lesquelles il s'engage.
Entrepreneur journaliste, on a parlé aussi d'agriculture. Comment faites-vous ? Parce que l'originalité de ce que vous faites, c'est que les deux ne sont pas séparés. C'est-à-dire le journalisme, avec ce que cela suppose de production d'images, d'informations et de réseautage à travers le Burkina Faso, mais vous êtes à une échelle panafricaine. Et l'agriculture, on pense que c'est un métier qui enracine au sol, alors que le journalisme fait circuler les gens. Comment combinez-vous ces deux choses ?
Je pense que c'est l'avantage qu'a ma génération aujourd'hui d'avoir cette ouverture au monde où on peut à la fois voyager tout en restant sur place, mais aussi on peut se déplacer et découvrir un peu toutes ces opportunités, tout ce qui se fait donc assez intéressant un peu partout. Alors oui, journaliste, entrepreneur, pour moi, la combinaison c'est immédiate parce qu'on a créé une société de production médiatique mais qui est spécialisée sur le secteur agricole. Donc tout le travail que nous faisons, qui peut être déjà nous par notre vision mais aussi pour en termes de prestations de services, c'est orienté sur tout ce qui peut, comment est-ce que la réflexion sur comment est-ce que la communication, les médias peuvent accompagner de façon qualitative donc la transformation du secteur agricole africain. C'est tout le sens que nous donnons donc à notre travail.
Alors ce travail vous le faites, mais vous réussissez à mobiliser aussi d'autres énergies, notamment je voudrais que vous nous parliez dans ce colloque, que nous avons beaucoup parlé aussi de la question du genre, n'est-ce pas, et de sa place capitale dans le devenir du continent africain. Alors parmi les gens qui se sont associés à vous très rapidement, il y a l'histoire de cette jeune fille assez incroyable qui s'est presque dissimulée par rapport à ses parents, à son entourage, pour s'engager dans l'agriculture, alors qu'on l'attendait sur des sites, disons, à première vue, beaucoup plus prestigieux.
Oui, on a ces histoires incroyables qu'on a réussi à raconter à travers donc notre web TV Agribusiness TV, qui est juste cette plateforme à travers laquelle nous essayons donc de montrer, de faire découvrir notre image de l'agriculture africaine à travers des portraits individuels ou collectifs de jeunes qui entreprennent dans le secteur agricole. Vous l'avez bien dit, donc l'histoire de cette jeune ivoirienne de la trentaine qui ses parents souhaitaient de tous leurs vœux donc qu'elle soit devienne médecin. Je pense qu'elle a même engagé des études en médecine avant de décider de changer de chemin parce que c'était pas du tout ce que elle voulait. Elle, ce qu'elle voulait, c'était plus d'entreprendre dans le secteur agricole. Et finalement, voilà, contre vents et marées, elle s'est lancée dans l'agriculture, le maraîchage bio. Et aujourd'hui, donc, ce qui se passe, la suite des événements, la progression de son entreprise lui donne raison. Et voilà, elle a tout le soutien de ses parents qui réalisent que le plus important, c'est justement de soutenir l'engagement de leur fille dans le sens de ses rêves qu'elle s'est fait elle-même.
Votre réseau est aussi un réseau panafricain, parce que vous n'êtes pas seulement au Burkina, vous débordez les frontières d'ailleurs, Afrique anglophone, Afrique francophone, lusophone, etc. Vous avez une couverture qui est déjà très très large sur quel espace, en gros, avec quelques exemples de pays.
Oui, alors nous avons, avec la Web TV, quand on a commencé il y a 2 ans, nous avons commencé directement avec 4 pays, qui étaient le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc déjà, on était à cheval Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et par la suite, on a mobilisé encore d'autres collègues journalistes dans différents pays qui nous permet aujourd'hui d'avoir une assise dans 12 pays, donc y compris l'Afrique de l'Ouest avec le Kenya et aussi l'île Maurice. Peut-être pour préciser l'île Maurice, parce qu'on est, on a commencé vraiment tout cela à deux avec mon épouse qui est mauricienne. Et donc voilà ce qui fait. Donc tous les pays que nous couvrons progressivement, c'est aussi de manière stratégique à travers donc les personnes qu'on arrive à identifier, les journalistes qu'on arrive à identifier, dont on est sûr de compétences et aussi sûr de l'engagement, qu'ils partagent la même philosophie que nous. Donc quand on commence à entreprendre dans un tel secteur avec certainement des défis liés donc à la disponibilité des moyens, il vaut mieux aller de façon plus stratégique en allant avec des gens qui partagent la même vision que soi.
Alors, donnons cet exemple sur une carte. C'est donc un projet panafricain qui, dans un premier temps, dans le premier élan, a réussi à unir l'Afrique de l'Atlantique et l'Afrique de l'océan Indien. Donc, nous sommes vraiment dans le panafricanisme. Rappelez-nous un peu ce site où on peut vous rejoindre, parce que je pense que vous allez susciter des vocations.
Oui. Alors, le site, c'est tout simplement agribusinesstv.info. Mais surtout, on a aussi voulu vraiment développer tous ces outils moderne donc de communication aujourd'hui, qui fait que on a aujourd'hui une application mobile téléchargeable gratuitement qui s'appelle tout simplement Agribusiness TV, F en parenthèse FR pour la version française et EN pour la version donc anglaise. Donc pour dire en fait que dès le départ jusqu'à aujourd'hui, tous nos contenus aussi sont disponibles dans les deux langues, le français et l'anglais. Ça aussi, ça répond à l'ambition justement de couvrir le continent, en se disant aussi que nous voulons permettre à ce que les jeunes de la partie anglophone de l'Afrique découvrent ce que les jeunes francophones font et vice-versa.
Voilà l'Afrique au seuil du 21e siècle, une Afrique qui va certainement étonner le monde. Un sociologue fameux au début du 20e siècle écrivait dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme que le capitalisme par essence est européen, lié à la religion protestante. Eh bien, on voit que le continent africain est en train de démentir cela à partir donc d'une jeunesse intellectuellement bien formée, économiquement très entreprenante et, très optimiste par rapport à l'avenir du continent. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.